shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la musique adoucit les mœurs, qui commence aujourd'hui avec, I Surrender Dear, et c'est Oscar Peterson en trio pour vous présenter cette émission et son sommaire. Depuis de longues années déjà, la musique adoucit les mœurs vous propose chaque semaine un rendez-vous consacré à la paix et à la non-violence, c'est-à-dire à la recherche de la paix et de la non-violence dans la plupart des cas, car le travail est immense, bien entendu, et ce ne sont pas les événements récents au niveau international qui nous feront dire le contraire. L'émission a démarré au départ avec beaucoup d'emphase sur l'objection de conscience, on devrait peut-être d'ailleurs y revenir. Aujourd'hui, l'émission aborde tous les aspects de la paix et de la recherche de la paix, donc pacifisme, antimilitarisme, lutte contre les différents types d'armement, sous toutes les façons que ça peut prendre, mais aussi les liens entre la paix, ou plutôt l'absence de paix, et d'autres sujets comme l'éducation, la santé, les problèmes économiques, les droits humains, et ce, sous différents points de vue. Donc on peut parler parfois de points de vue plus juridiques, ou humanitaires, ou encore géopolitiques, pour ne citer que ces aspects-là. Sans oublier les aspects civils de la non-violence, comme la lutte contre les violences conjugales, contre la présence d'armes légères dans la population, ou d'armes légères ou moins légères d'ailleurs, comme on vient encore de le voir dans certains pays, avec des tueries, des attaques à l'arme quand même assez lourde sur, par exemple, des écoles. L'éducation à la paix également sont des sujets abordés régulièrement dans cette émission, de même que nous vous proposons de temps en temps des séquences historiques. Par exemple, on avait fait toute une série d'émissions spéciales consacrées à la Première Guerre mondiale, celle de 14-18-22. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un communiqué du comité de surveillance OTAN avec un titre un peu provocateur, « La guerre en Ukraine a commencé il y a 9 ans ». Et puis on ira rechercher dans nos archives des textes, entre autres des points de vue féministes sur l'armement, le danger de l'armement nucléaire entre autres. C'est un extrait des Cahiers du Griffe consacré à l'imaginaire du nucléaire où on verra les métamorphoses théâtrales dans le discours militaire à travers un texte de Bonnie Maranka. Et si on a le temps, on parlera encore d'autres choses dans cette émission qui, je vous le rappelle, vous est proposée tous les vendredis de 9 à 10 heures et rediffusée le lendemain, le samedi de 14 à 15 heures, toujours sur Radio Air Libre. Mais on va démarrer en chanson avec Georgius, tiens.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur, nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle-maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir boulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux. Ma femme portait ses jambonneaux. Ma belle-mère, comme fricot, avait sa tête de veau. Ma soeur, son chocolat. et ma fille, ses œufs sur le plat. Gais et content, nous étions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. De Longchamp, on foule la pelouse, et puis on commence par s'installer. Je débouche les 12 litres à 12, et on se met à saucissonner. Tout à coup, on crie vive la France! Ça y est, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qui aime les pompiers acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains en regardant les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en reluquant les spahis. Moi, je ne cessais de crier vive le général Boulanger. Gais et content, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Au retour, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de licher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Bref, le soir, lorsque nous rentrons, nous étions tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait au bras d'un turco. Gais et content, nous étions triomphants en revenant de Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous avions fêté, vu et complimenté l'armée française.
Eh bien, ça, c'était Georgius avec cette chanson qui avait été popularisée, non pas par Georgius, mais par Paulus, je pense. C'était déjà au 19e siècle dans les cafés-concerts et entre autres à Paris. Pour continuer et pour aborder le premier sujet de cette émission, la musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui, je vous propose 16 valses de Brahms, extrait d'un album consacré à Brahms, par le pianiste, je pense qu'il est finlandais, Antti Siirala. Et le premier sujet de cette émission est consacré à la guerre en Ukraine, avec un communiqué qui date du mois de février dernier, c'est-à-dire un an après le début des hostilités par là-bas. Un communiqué du comité de surveillance OTAN intitulé « La guerre en Ukraine a commencé il y a 9 ans ». Alors, le texte, en son départ en tout cas, est un peu provocateur, mais vous verrez par après qu'il pose une série de questions qui ont tout à fait leur place, évidemment, dans la réflexion qu'on peut avoir sur cette guerre qui ne dit pas nécessairement son nom, ça dépend de quel côté du front on se trouve, bien entendu. Mais de toute façon, qu'on appelle ça guerre, conflit, opération spéciale, pour celui qui est mort ou blessé, c'est du pareil au même. Le comité de surveillance OTAN, donc, le 26 février 2023, s'était fendu du communiqué suivant. En février 2014, le gouvernement ukrainien, démocratiquement élu, était renversé dans la violence. Ce qui nous a été présenté comme une révolution populaire était de fait une opération de changement de régime, ouvertement promue par les États-Unis et l'Union européenne, et réalisée concrètement par les milices d'extrême droite ukrainienne. Il s'agissait de faire à tout prix de l'Ukraine une entité hostile à la Russie, contre l'avis de la majorité exprimée du peuple ukrainien, et de couper l'accès de la Russie à la Méditerranée dans le cas où l'OTAN occupait la Crimée. L'OTAN se moque pas mal de l'Ukraine et des Ukrainiens, la cible est la Russie. Bon, on en n'a pas appris grand-chose de nouveau, comme vous pouvez vous en être rendu compte par vous-même, bien entendu, même si je ne vous l'avais pas lu, vous le saviez. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN préparait de fait activement cette guerre. Moi, je dirais plutôt, l'OTAN cherchait une raison d'être, et une raison d'être pour une organisation militaire, c'est évidemment au niveau de conflits et de guerres ou d'autres interventions militaires. En 2014, l'OTAN a investi l'Ukraine, lui dispensant à rythme accéléré armement et formation. Les précédents accords de paix, dits accords de Minsk, étaient de l'aveu même des garants de ces accords, des garants occidentaux, une simple manière de gagner du temps pour former l'Ukraine à la guerre atroce que nous voyons aujourd'hui. Depuis la dislocation de l'URSS, l'OTAN n'a cessé de s'étendre, passant de 16 à 30 membres, jusqu'à l'arrivée aux frontières de l'ex-URSS, en englobant même des États issus de l'URSS. Entre-temps, l'OTAN n'a cessé de mener des opérations extérieures agressives, de la Yougoslavie à la Libye, en passant par l'Irak et l'Afghanistan, remplaçant des gouvernements et amputant des territoires d'États souverains, en faisant parfois par ce remplacement pire que bien, comme vous le savez. Depuis plus de 20 ans, les associations de paix et en particulier le comité de surveillance OTAN ne cessent d'alerter sur le fait que la politique d'extension de l'OTAN ne pouvait que mener à la guerre. Mais maintenant que ce qui avait été annoncé est arrivé, il faudrait avant toute chose condamner la Russie et surtout ne même pas évoquer l'OTAN. Le seul espoir de paix aurait été, avant le déclenchement de cette guerre, un accord de paix global, reconnaissant le fait que la sécurité en Europe était collective et ne pouvait pas être réalisée au détriment de l'un au profit de l'autre. Un tel accord de paix était proposé par la Russie en 2021. Il a été rejeté avec mépris par les pays de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'une guerre entre Russie et Ukraine, mais bien d'une guerre OTAN-Russie, sciemment, préparée depuis 9 ans. Celle-ci implique donc d'office la Belgique, qui est membre de l'Alliance Atlantique. En tant que membre de l'OTAN, la Belgique est déjà en guerre contre la Russie, même si nous ne le voulons pas. Pour contribuer à mettre fin à cette guerre, nous devons dénoncer l'OTAN, qui est son puissant protagoniste, et cesser toute livraison d'armes et toute aide militaire belge à l'armée ukrainienne. Nous devons construire un véritable front anti-OTAN à l'échelle internationale. Donc quand le comité OTAN parle de la Belgique est impliquée dans cette guerre d'aujourd'hui et donc dans sa préparation via l'OTAN, le comité oublie de dire que la Belgique est impliquée dans d'autres guerres et conflits également, et parfois on l'oublie parce que c'est loin d'ici, mais c'est entre autres le cas des forces en présence au Moyen-Orient, et je pense qu'en Afrique il y a également des endroits où la Belgique, comme d'autres pays, sont par exemple en renfort ou en soutien des troupes françaises qui y sont déployées. C'était le cas au Mali, mais au Mali, ils ont remballé les gens pour prendre le groupe Wagner à la place. C'est pas mieux, évidemment, mais on oublie que la Belgique est effectivement présente dans certains coins et pas seulement dans des exercices militaires comme elle le fait dans les pays baltes à l'heure actuelle encore, et ce depuis plusieurs années. Et donc, comme vous le savez, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez entendu, ce texte du comité de surveillance OTAN prend en tout cas comme point d'accord de départ les accords de Minsk. Alors, j'ai été rechercher quels étaient les principaux points dans ce protocole de Minsk, aussi appelé Minsk 1, accord signé le 5 septembre 2014 par les représentants de l'Ukraine, de la Russie, des autoproclamées Républiques populaires de Donetsk et République populaire de Lugansk et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, mieux connue sous ses lettres majuscules, OSCE, dont l'objectif était de mettre fin à la guerre du Donbass qui avait éclaté en avril 2014 en Ukraine orientale, après que la guerre russo-ukrainienne a elle-même éclaté en février 2014. Et signé après de longues négociations à Minsk, capitale de la Biélorussie, l'accord qui fait suite à plusieurs tentatives pour faire cesser les combats dans la région du Donbass, en Ukraine orientale, met alors en œuvre un cessez-le-feu immédiat, mais échoue dans son objectif de faire cesser tous les combats entre l'Est et dans l'Est de l'Ukraine. Et c'est au fond la continuation de ça qu'il y a aujourd'hui, avec comme point supplémentaire que la Russie s'est accaparée en quelque sorte de ces deux républiques autoproclamées en les intégrant dans la Russie et en les détachant en quelque sorte, mais unilatéralement, de la Russie, de l'Ukraine, pardon, pour les rattacher à la Russie. Alors, je vais très brièvement évoquer les 12 points que comprenait ce protocole de Minsk, aussi appelé accord de Minsk, donc, qui date, je vous le rappelle, de 2014, c'est-à-dire d'il y a une petite dizaine d'années. Alors, premier point était quand même assez important, c'était d'assurer un cessez-le-feu bilatéral immédiat. Il a fonctionné relativement jusque l'année passée. Assurer la surveillance et la vérification du cessez-le-feu. Et pour ça, l'OSCE était en place. L'OSCE qui a partiellement rempli son rôle, comme vous le savez, mais qui a échoué, évidemment, mais il ne savait pas faire autrement, dans son objectif de maintenir la paix ou en tout cas cesser le feu entre les différentes forces en présence dans l'est de l'Ukraine. Donc assurer la surveillance et la vérification de ce cessez-le-feu, mission donnée, attribuée à l'OSCE. Le troisième point, c'est d'organiser une décentralisation des pouvoirs par la mise en application d'une loi ukrainienne, la loi sur le statut particulier, accordant de manière temporaire l'autonomie locale dans les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Quand même un point important. Quatrième point, assurer une surveillance permanente de la frontière russo-ukrainienne par l'OSCE et instaurer une zone de sécurité à cette même frontière. Jusque l'année passée, c'était quasiment ça. Hein. Le cinquièmement, c'était la libération immédiate de tous les otages et des personnes retenues illégalement. Sixièmement, apporter une loi ukrainienne une loi ukrainienne visant à interdire les poursuites et les sanctions contre toutes les personnes impliquées dans la guerre du Donbass. Septièmement, poursuivre un dialogue national entre les parties. Huitième point, mettre en œuvre des mesures afin d'améliorer la situation humanitaire dans le Donbass. Neuvième point, procéder à des élections anticipées dans les oblasts de Donetsk et de Lugansk. 10. Procéder au retrait du territoire ukrainien des formations armées et du matériel militaire illicite, ainsi que des combattants irréguliers et des mercenaires. Ça voulait dire des combattants venant d'autres pays, je suppose. 11e point, mettre en place un programme économique pour favoriser la reprise des activités et de l'économie locale dans le Donbass. Quand même un point important avec la métallurgie, des ressources minières, etc., etc. Donc un point important, c'était aussi 10% de plus de 10% de l'économie ukrainienne. Et évidemment, cela fait des envieux au niveau autonomie et au niveau des voisins, du voisinage. Enfin, le 12e point de ces accords de Minsk, c'était d'assurer protection personnelle des participants aux consultations sur une éventuelle autonomie de ces régions, rattachement éventuel à un autre pays, etc. Et donc aujourd'hui, vous me direz qu'on n'est pas très loin dans ce bazar-là. Et que même si on revenait à ces accords de Minsk, ce serait déjà un certain progrès dans le conflit actuel, conflit meurtrier, je vous le rappelle, qui a fait des dizaines, si pas des centaines de milliers de morts de part et d'autre, et dont on ne voit pas bien aujourd'hui comment il va pouvoir se terminer. Les perspectives à ce niveau-là ne sont pas bonnes, et ce n'est pas en ajoutant de l'huile sur le feu qu'on va éteindre l'incendie. Alors, comme vous le voyez, c'est pas tout blanc ou tout gris ou tout noir. C'est une matière qui est délicate, où il va encore falloir beaucoup de patience avant d'arriver à un éventuel accord et surtout un cessez-le-feu viable et durable. Un communiqué donc au départ du comité de surveillance OTAN que j'ai prolongé avec ces infos sur les accords de Minsk. Alors voilà, on va continuer. La musique adoucit les mœurs en chanson, en se donnant un peu d'espoir avec une chanson qui est un grand classique des chansons pour la paix, des chansons antimilitaristes. Il s'agit de la chanson de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour. Et j'ai l'habitude de dire que chaque chanteur québécois ou chaque chanteur canadien francophone se doit d'au moins une fois enregistrer dans sa vie, dans sa carrière, cette chanson-là, et il y en a une qui s'y est tapée relativement jeune, elle avait 16 ans à l'époque, c'est une certaine Céline Dion. Je ne sais pas si à l'époque vous avez entendu parler d'elle. Depuis lors, évidemment, ça doit être autre chose. Mais donc, je vous propose la version de « Quand les hommes vivront d'amour » par Céline Dion, et ce n'est pas une nouveauté, donc, dans la musique adoucit les mœurs.
d'amour. Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Céline Dion, donc, il y a bien longtemps, et en fond sonore, il y a bien longtemps aussi, que c'est en 1956 que Art Tatum, pianiste, enregistrait le morceau que nous écoutons en fond sonore, Gone with the Wind, avec Ben Webster, Red Calendar et Bill Douglas. De quoi parler d'un imaginaire du nucléaire qui date d'un peu moins lointain que ça. C'est dans un numéro des Cahiers du Griffe, publié dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, parce qu'il y a eu deux séries. Donc, Cahiers du Griffe, publié entre autres à Bruxelles par un certain nombre de féministes. Et dans ce numéro consacré à l'imaginaire du nucléaire et à voir dans quoi les études féministes pouvaient apporter quelque chose dans ce domaine-là, il y a un texte de Bonnie Maranka qui m'a interpellé et qui est intitulé les métaphores théâtrales dans le discours militaire. What is that? Eh bien, c'est justement pour cette raison-là, parce que c'est quand même un sujet interpellant, que je me propose de vous lire ce texte qui date donc d'il y a quelques années déjà, quelques dizaines d'années. Je vais voir si je retrouve la... oui, je devrais pouvoir retrouver la date de publication. Pas évident de retrouver. Bon. Ah, voilà, 1989. C'est justement à l'époque où bon, il y a eu l'effondrement de l'URSS. Donc c'est pour ça qu'on y parle encore du RSS et pas de Fédération de Russie ou d'autres. Voici des mois, bientôt un an, écrit Bonnie Maranka, que je constitue un dossier de coupure de journaux intitulé « Théâtre nucléaire ». J'y insère tous les emprunts à la terminologie du théâtre dont sont truffés chaque jour davantage les articles sur les nouveaux systèmes d'armes, la politique européenne, les relations entre les États-Unis et l'URSS, les protestations antinucléaires et bien d'autres sujets ressassés quotidiennement. La plupart des questions débattues sont mises en forme dans le langage des métaphores théâtrales dont l'usage révèle bien des aspects de l'évolution de la langue et de la pensée dans la culture américaine. The Dictionary of Military and Associated Terms, publié par le ministère de la Défense, définit le théâtre, c'était le théâtre aux États-Unis, hein, Bonnie Maranka, c'est une traduction de ce texte, évidemment je ne retrouve pas la page, mais bon. Ça ne fait rien. Donc, le Dictionary of Military and Associated Terms, publié par le ministère de la Défense, définit le théâtre comme une aire géographique extérieure aux États-Unis continentaux. Sous sa forme grecque originale, théatron, le mot théâtre signifie lieu où l'on voit. Le théâtre européen, ou théâtre de l'OTAN, n'est rencontré nulle part le syntagme théâtre américain ni théâtre russe, est donc envisagé comme la scène prédéterminée. Théâtre de déploiement, scène prédéterminée d'un théâtre, c'est-à-dire d'une guerre nucléaire limitée. Autrement dit, nous, les Américains et les Russes, nous sommes les spectateurs et les Européens, les acteurs. À moins, bien sûr, que n'éclate une guerre par procuration, que d'autres acteurs du drame nucléaire ne reprennent les rôles. Les bombes sont-elles les accessoires des forces nucléaires de théâtre ? L'erreur circulaire probable a caviardé toutes les indications scéniques. Il n'y a pas à s'y tromper, l'emploi du mot théâtre montre comment la logique impériale s'infiltre dans la langue et ce qui est plus grave, comment elle contribue à des discours et des comportements humains artificiels. La notion même de théâtre ou de bataille nucléaire tactique est liée à la théorie compliquée de la dissuasion, qui est en vérité un euphémisme pour le théâtre de propagande auquel se livrent les deux camps. Un jeu de mots ritualisé qui confond délibérément intention, prétention et incertitude. Le drame rhétorique qui est au cœur des relations Est-Ouest est alimenté par les rôles que jouent des superpuissants masqués, dont le dialogue a un épouvantable air d'improvisation. L'idée maîtresse étant qu'une guerre nucléaire pourrait être une opération aléatoire. Pourtant, ce double langage stylisé se maintient avec des mots codés du genre de MAT, Mutual Assured Destruction, destruction mutuelle assurée, qui est le principe même de la dissuasion nucléaire. Les acteurs de ce drame absurde nous terrorisent par des jeux psychologiques conçus pour se dépasser réciproquement, l'un promettant un gel des armes, l'autre une réduction des armes. Assez simplement, la théorie de la dissuasion offre à ses protagonistes les plus belles occasions de jouer leur rôle, dans la mesure où elle repose, pour une bonne part, sur la mise en scène d'attitudes psychologiques perpétuellement changeantes à l'égard des scénarios possibles. La directive présidentielle 59 de Carter, ancien président des États-Unis. Donc cette directive est un exemple récent, mais il y en eut un autre plus théâtral avec la discussion d'une démonstration d'armes nucléaires, une répétition en costume en quelque sorte d'une pièce toujours en préparation, mais qui ne devrait jamais être achevée. De plus en plus, continue le docteur, on voit se manifester les caractéristiques de la tragédie aristotélienne. Aristotélicienne. Dans l'hubris des leaders du monde, dans leur rhétorique fleurie, dans la manière dont ils sont coupés du reste de l'humanité et dans leur croyance en la nécessité, avec un grand N, l'introduction du terme fratricide, destruction d'armes nucléaires, qui volent à travers les débris des explosions d'armes appartenant au même pays ou à un allié, mais qui ont explosé auparavant, dans le vocabulaire de la guerre, menace de transformer un danger réel en thème familier du drame classique. Aujourd'hui, nous connaissons la seconde génération et la famille des missiles, mais cet essai pervers d'intégrer les armes dans la famille nucléaire avait déjà commencé avec la première explosion d'une bombe A à Alamogordo, lorsque le président Truman, alors à Potsdam, reçut un télégramme annonçant que le petit garçon était né. C'est une métaphore, évidemment, pour dire que la bombe atomique avait été essayée à Alamogordo. Le drame domestique a toujours été le point fort du théâtre américain, écrit Bonnie Marin. Quand les stratèges s'approprient le vocabulaire du théâtre et l'associent à l'histoire de la famille, continue-t-elle, ils imposent de graves distorsions à l'imagerie des relations humaines. Ce n'est pas par hasard que le théâtre a fourni la métaphore de la guerre, la plus sociale des formes d'art, celle où l'on expérimente la représentation de la vie dans un espace rempli de corps vivants. Le théâtre invite à la participation. C'est tout l'objet de la psychologie de la guerre lorsqu'elle mobilise un pays. Puis elle continue en écrivant « Ceci, l'espèce de répétition en langage figuré qui se déroule autour de nous, crée un mode de pensée très perturbant, du fait qu'elle n'envisage l'histoire qu'en termes de spectacle, et l'Europe comme un plateau de théâtre. Elle n'abstrait pas seulement la guerre, elle esthétise, et la guerre et nos sentiments jusqu'à l'anesthésie. Le sens de la forme, le désir de créer et de contrôler les images humaines dans une mise en scène dynamique, de construire un dialogue, de structurer les relations sociales, de manipuler les émotions, bref, de créer un monde sur scène, est un besoin humain de représentation qui ne doit pas être séparé d'une vision morale. Moi, j'ajouterais à ce paragraphe, en le relisant, je me rends compte combien aujourd'hui, autant d'années après 1989, quand ce texte a été publié en français en tout cas, aujourd'hui on en est à l'heure des réseaux dits sociaux, on devrait peut-être les appeler asociaux dans un certain nombre de cas, et cela ne fait qu'amplifier le phénomène que l'autrice ici vient de décrire. On est de plus en plus et en permanence sur un plateau en représentation, et nous sommes les mêmes, nos propres acteurs de notre vie, dans la mesure où nous le mettons en scène et surtout nous le mettons à disposition du public que ça pourrait éventuellement intéresser. Et c'est confirmé par le paragraphe suivant qui parle justement des médias et de la communication. L'importance, écrit l'autrice, l'importance croissante des médias et de la communication dans l'évolution de la société moderne a fait de la théâtralisation la forme d'art politique du XXe siècle. Celle-ci subsume idéologie et individualité comme notre manière d'être dans le monde contemporain. L'incursion des médias dans tous les domaines de l'expérience sabote la notion d'acte privé et transforme le jeu théâtral, la représentation en manière de vivre. Le regard public des médias a mis le jeu privé sur une scène mondiale. Ça fait le cas des médias électroniques disponibles aujourd'hui. La manière dont il est offert à la consommation de masse pour séduire et parfois protester. Dans ses manifestations les plus dangereuses, la théâtralité valorise l'apparence plus que l'essence, le compromis plus que l'éthique. Exploitant des analyses qui ignorent les valeurs humaines, une politique régressive du théâtre a été bâtie sur l'idée que la réalité peut être entièrement fabriquée en manipulant l'imagerie publique. Alors on parle d'intelligence artificielle qui est capable de produire des contenus par elle-même et sans intervention humaine ou presque. Eh bien, ce paragraphe, ces quelques lignes prennent tout leur sens, évidemment. Puis, on a quand même aussi l'utilisation de ces moyens de communication, de ces médias, de ces médiums, pour les activistes, qu'ils soient politiques ou autres. Les protestataires anti-nucléaires, écrit l'autrice, qui mettent à profit le mode spectaculaire pour créer des actions théâtrales de guérilla à l'occasion de marches, représentent une politique du théâtre plus saine, avec leurs affiches et leurs calicots qui suscitent un dialogue et des images qui critiquent la machine guerrière. Plus encore, les protestataires qui se déguisent et se maquillent en victimes d'Hiroshima, se plongeant eux-mêmes dans une imagerie mortuaire qui témoigne des horreurs de la guerre, régénèrent la sensibilité à la vie en portant à la scène des dimensions humaines de la guerre. Cette façon de penser indépendamment est la seule thérapeutique tactique de survie. Ne permettons pas qu'on nous définisse la guerre comme un spectacle théâtral occasionnel, car si nous acceptons cela, nous ressemblerions au pathétique personnage de Bernard Shaw dans Earl Break House, qui, en temps de guerre, faisait l'éloge du bruit des bombes au-dessus de leur tête pour sa ressemblance avec la musique de Beethoven. N'accueillons pas le nucléarisme comme la nouvelle mode dans le théâtre perpétuellement changeant de la politique contemporaine. Un texte donc de Bonnie Maranka, paru dans le numéro 41 et 42, c'est un numéro double des Cahiers du Griffe en 1989. Un cahier consacré à l'imaginaire du nucléaire, surtout d'un point de vue féminin et même féministe. Thank you. c'est toujours avec Art Tatum au piano en fond sonore et le sax de Ben Webster pour l'accompagner que se termine cette séquence-là de l'émission. Et on va écouter, s'arrêter comme ça, hein, non, en chemin, on a encore du temps, on a encore une petite vingtaine de minutes pour parler d'autres choses et surtout pour écouter quelques chansons. Comme par exemple ce que je vous propose à présent, et c'est une chanson pour laquelle ils s'y sont mis à plusieurs, c'est L'Art de la guerre, Akhenaton, Arsenic et Pete Bacardi. On les écoute.
Mesdames, messieurs, nous entrons dans une zone de forte turbulence. Pour votre sécurité, veuillez regagner votre siège, attacher et ajuster votre ceinture.
Ça pète net comme une requête du FLNC. À 4 ans du parc, un AKA et de la NLC.
Couche tes narines sur la moquette.
On va lâcher la roquette, poser des yeux et distribuer des trompettes.
On assume tout ce qu'on commet.
On conne, c'est tout ce qu'on connaît. C'est comme au poker, on bluffe pour gagner, gars, pas déconner. Avec notre argot, mais qu'on en balance un stade. Sur mon crâne ancestral, arsenic, chill, beat, c'est de la balle.
Imaginaire dans le 11, pense qu'on pionce pas. Ça pue la souffrance normale, le stylo, le papier en pape. Grave, y'a groupe et grève dans les lycées. On recense un millier de jeunes dans les rues, clamant nos récits. 7 jour sur 7, on cherche la tactique. Jette l'œil derrière, tout semble statique. Minant les crânes de rimes toxiques, crûment. C'est l'art de guerre, car à l'orgie de bord, c'est cruel. Si tu as Lilia, c'est plus M.I.L.E. Si on débile, faut pas que tu cries au ciel. Béton, P.I.L.E. Sans perdre de B.I.L.E. Première attaque, Bacardi Pie, c'est A.L.B.E.
Vite, je suis le genre de mec qui de la télé agit que les ringos.
Et ça clique fatigué.
Je place mes rimes comme des bingo. Bessif, la concurrence pour bille des machinations. C'est, on voit mes scuds comme des machines à sous. Les gens mal que c'est flic la canine, nous on passe inaperçu, on signe au portique sur le beat maligne.
Tu connais ma ligne,
soumé pour si c'est au sommet, secoué le pommier.
Ma mère n'a jamais trouvé de cagoule sur le sommier.
Formule un moisi, au Regency Hayat, j'rappe sur basse et Hayat. S'il faut, j'fous la Hayat avec mes barbouzes,
c'est un baroud de première classe.
Genre tout le monde fuit en criant, comme à l'époque de nos premières crasses. Le doigt de
Bacardi,
trois gouttes
d'arsenic
pour empoisonner ce qui pour les lauriers de César flic. J'emmerde le monde, et ta vision est triquée. Moi armé d'un pic et d'un stick, mes lignes pour Côte Mars, c'est mon briquet.
La guerre, déploie force et stratégie. On a guerre, le grand flair, si c'est l'enfer.
On fait nos affaires,
on danse et on se crée des issues.
Jamais déçu,
respect pour les MC qui suit ici.
C'est l'art de la guerre,
l'art de la guerre.
Déploie force et stratégie. On a guerre, le grand flair, si c'est l'enfer.
On fait nos affaires,
on danse et on se crée des issues.
Jamais déçu,
respect pour les MC qui suit ici.
Comme au pugilat, avec les mots en boxe, on rougit la foudre. Gratte les villes à menace de fond comme Godzilla. Vas-y, mets-y-la, tête et elle saute. Net, à la vôtre, cette fois c'est casse. Diront pas que c'est ma faute, c'est pas honnête.
Les corps ont balancé la kryptonite.
L'alarme sonne. Et moi j'ai le doigt scotché à la sonnette. On reste digne. Pour tous ceux qui daignent prêter l'oreille, jamais on badine. Et qui m'ont le désert comme des moudjahidis. On signe nos actes avec la haine de l'insigne. Si ça saigne, c'est que c'est écrit.
Ce qu'on sait, c'est la rue qui l'enseigne.
Je m'indigne sur toutes les chaînes. Alors je fais pleurer le feutre. Que les désignés aillent se faire foutre. Et que les autres restent neutres. Combat, c'est l'autre. Ici je délivre ma stratégie. C'est le secret de mon art. La guerre où je puise mon énergie. C'est urgent. Voilà pourquoi les bacs sont submergés. Secteur à côté obscur. Voit nos drapeaux émerger.
Côté obscur, ça c'est lit. J'imagine bizarre ta mort comme imaginer des darkiniques. On polémique, non, on aime la provoque. Pop son sur disque, on attend que l'assassin nous convoque. Mais cru et gris, mais cringe, j'écris, tu cries, je l'écran. T'as le trou du cul, parabougri, négo, bigre, l'espoir, on prend du souffle. Vite pour l'aspect, Bacardi 2, c'est enfoiré, un point de trait. Une casquette, toujours sur mon épaule, mon gilet. Mon gicleur prêt à gicler. J'y vais, rien à foutre, des flics qui me filent reluclés. Texte que je dis, l'omino, qui déverront les minés. Abîme les ondes, les pollue l'écran, tous les dynamités. En première classe, j'ai dîné. En première classe, devinez. Tu poses la première mine et éduque les frères déracinés. Calvo. C'est maintenant qu'elle tombe.
Je viens d'allumer la mèche.
Moi je suis la bombe.
C'est l'art de la guerre.
C'est l'art de la guerre.
Déploie force et stratégie.
On a guerre, le temps de flair. Si c'est l'enfer.
On fait nos affaires.
On se fait, on se crée des issues.
Jamais déçu.
Respect pour les MC qui suivent ici.
C'est l'art de la guerre.
L'art de la guerre.
Déploie force et stratégie.
On a guerre, le temps de flair. Si c'est l'enfer.
On fait nos affaires.
On
se fait, on se crée des issues.
Jamais déçu.
Respect pour les MC qui suivent ici.
C'est l'art de la guerre.
L'art de la guerre.
Déploie force et stratégie.
On a guerre, le temps de flair. Si c'est l'enfer.
On fait nos affaires.
Les issues,
jamais déçu.
Respect pour les MC qui suivent ici.
C'est l'art de la guerre.
L'art de la guerre.
Déploie force et stratégie.
On a guerre, le temps de flair. Si c'est l'enfer.
On fait nos affaires.
On se fait, on se crée des issues.
Jamais déçu.
Respect pour les MC qui suivent ici.
Ouais, 98, c'est l'art de la guerre. Force. Stefanino,
C-A-L-B-O,
c'est Big de Mike.
L'homme qui valait 6 millions de barres, Takashish, bad bad chiche.
Oui, en première classe, en première classe. Oui.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la musique à 12 s'il est mort, que c'est tous les vendredis de 9 à 10 heures, diffusion le samedi de 14 à 15 heures sur Radio Air Libre. Et là, c'était l'art de la guerre, Akhenaton, Arsenic, Pic Bacardi, et pour suivre, c'est la mère, c'est pas l'art de la mère, mais c'est la mère de Debussy. Et ce n'est pas sa maman. Avec ce morceau en fond sonore, je vous propose de nous replonger dans un texte que dont je vous avais déjà présenté un morceau il y a une semaine ou deux. Un texte de Robert Delson à propos du désarmement nucléaire unilatéral et réciproque. C'est aussi un document ancien puisqu'il a été publié par l'ONU et plus exactement le Centre pour le désarmement de l'ONU à l'été 1987. C'est un numéro de la revue publié par l'ONU, volume 10, numéro 2, à l'époque. Et il y a toujours des publications de l'ONU bien intéressantes à consulter aujourd'hui, qu'on peut lire en ligne, par exemple. Alors, on était en train de parler dans ce texte l'autre jour de la réduction des arsenaux, la réduction unilatérale ou multilatérale des arsenaux d'armes nucléaires, et on se rend compte aujourd'hui avec la possibilité, certains craignent la possibilité que l'un ou l'autre chef d'État en fin de mandat ou poussé vers la sortie, par exemple parce que la guerre qu'il a commandée tournerait en eau de boudin à son encontre, bien que certains pourraient être pourraient bien songer à mettre le petit doigt ou le gros doigt sur le bouton rouge de l'armement nucléaire, d'où la nécessité de continuer à plaider pour le désarmement nucléaire partout sur la planète. En dépit de la réduction du danger de guerre nucléaire, écrit Robert Delson, à court terme en tout cas, résulterait de telles initiatives, il ne serait pas possible de s'appuyer sur les armes nucléaires comme seul moyen de maintenir la dissuasion au cours d'une longue période. Cet objectif ne pourrait être atteint que si le processus de désarmement, de réduction des tensions et d'amélioration des relations entre les superpuissances aboutissait finalement à l'adoption d'arrangements fermes et pleinement applicables, qui seraient devenus si nombreux, si étendus et si mutuellement avantageux qu'ils pourraient être qualifiés d'engagement constructif. On se rend compte aujourd'hui qu'on était dans les années 80, dans les années d'installation des euromissiles, à l'est comme à l'ouest, mais finalement dans une position plus favorable pour négocier des accords de paix, des accords de désarmement, des accords de contrôle aussi des arsenaux nucléaires et de non-prolifération, comme plusieurs ont été signés effectivement à la fin des années 80, et accords qui aujourd'hui sont largement remis en cause, d'une part par les chefs d'État qui les avaient précédemment signés, ces accords de paix et de désarmement, mais d'autre part aussi par l'actualité et les conflits, et l'augmentation en intensité des conflits et l'implication de plus en plus de pays dans ceux-ci. Dans ce cas, continue notre auteur, l'hostilité et les soupçons qui incitent les superpuissances à maintenir et à accroître leurs stocks et à envisager l'emploi ou la menace de l'emploi des armes nucléaires diminuerait très sensiblement. Des mesures complémentaires devraient être également adoptées pour veiller à ce que, lorsqu'ils auront atteint le niveau recherché, les arsenaux ne soient pas accrus ou modifiés au point de réduire à néant les objectifs de désarmement. Ces mesures pourraient avoir, en fonction des circonstances, un caractère bilatéral ou multilatéral. Et ici, je pense qu'il fait allusion à ce qu'on a vu ces dernières années, qui était une mise à jour, en quelque sorte, des armements nucléaires, entre autres de celles dont dispose la Belgique, si j'ose le dire comme ça, ou que la Belgique a en dépôt à Kleinebrogel, et qui ont fait non pas l'objet d'une mise à jour, mais plutôt d'une modernisation, pour employer un terme de nouveau, un euphémisme, une modernisation donc de ces armements nucléaires de l'OTAN, mais ce sont essentiellement des armes américaines, bien entendu. Alors, on revient à l'ONU et au rapport du secrétaire général de l'époque, intitulé « Mesures unilatérales de désarmement nucléaire » et où il présente des arguments détaillés et particulièrement justifiés en faveur de l'application de la théorie du GRIT, G-R-I-T, au désarmement nucléaire. Le rapport ne présente pas d'arguments en faveur d'un niveau particulier de réduction. Toutefois, Osgood est favorable à une dissuasion minimale. Il déclare que la capacité nucléaire ne peut contribuer à instaurer une politique étrangère rationnelle que si, entre autres choses, la capacité minimale nécessaire à la dissuasion efficace est maintenue et si la course aux armements est ralentie. Cette idée est exposée plus en détail dans la disposition 1C des trois séries de règles qu'il a dénommées, respectivement règles pour maintenir la sécurité, règles pour susciter les mesures de réciprocité et règles pour démontrer la sincérité des initiatives et des mesures de réciprocité. Le texte de ces règles était disponible dans l'article, en annexe de l'article que je vous lis. La présente étude, continue Robert Delson, la présente étude tend à donner un aperçu des arguments qui militent en faveur de l'application de la formule GRIT, en particulier pour assurer des réductions substantielles ou atteindre le niveau de dissuasion minimal. Dans son rapport, le secrétaire général reconnaît que des mesures aussi bien unilatérales que bilatérales de désarmement sont nécessaires, car elles se complètent et se renforcent les unes les autres. Le rapport indique également que des mesures unilatérales peuvent contribuer, en particulier, à encourager ou à relancer des négociations. Cela est d'autant plus vrai que la réunion qui a précédé le sommet a sans doute créé une atmosphère plus favorable à la conciliation. En conséquence, le meilleur espoir de donner une impulsion nouvelle au désarmement pourrait résider dans l'adoption de la méthode GRIT, G-R-I-T, donc, dont on avait parlé la fois passée. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui avec ce texte. J'aurai sans doute encore l'occasion dans les mois et les années qui suivent d'y revenir ou de revenir sur certains aspects de cette étude donc de Robert Delson, parue en 1987 dans la revue Désarmement, revue de l'ONU. Et on approche tout doucement de la fin de cette émission, la musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui. Alors, que je vous propose, c'est de terminer en chanson. Ce sera avec Henry Goldman. J'ai bien dit Henry Goldman et pas l'autre ou les autres. Et c'est le fameux blues du chanteur engagé qui est resté dans les mémoires de certains, en tout cas. Extrait du seul 33 tours à ma connaissance que Henry Goldman a enregistré. C'était l'album Ville Métis, sorti il y a bien des années de ça, évidemment. La musique adoucit les mœurs. Si vous voulez nous envoyer des critiques, remarques et suggestions, eh bien n'hésitez pas à le faire et utilisez pour cela notre adresse postale et notre adresse électronique, par exemple. Alors l'adresse électronique, c'est facile, c'est Radio Air Libre en un mot et au singulier, @skynet.be. Et l'adresse postale, c'est le 365A, chaussée d'Alsenberg, @Alsenberg, à 1190 Bruxelles. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de l'émission. Ben, c'est la page La musique adoucit les mœurs, tout simplement. Et vous pourrez y voir que j'y ai posté récemment, en tout cas, des textes concernant le Mondaneum et un de ses fondateurs, à savoir Henri Lafontaine, pour ne citer que celui-là. Alors voilà, on se quitte avec Henri Goldman.
Je me souviens de la guerre et des G.I.s à gare, quand chantait Pete Seeger en fumant son cigare. J'étais à peine un homme déjà couvert de femmes. Je mâchais du chewing-gum pour chanter comme Dylan. On disait qu'au Vietnam c'était l'apocalypse. Je séduisais les femmes, un joint entre les lips. Mais avec mes longs tifs, paraît que j'ai plus le look. Aujourd'hui, faut qu'on sniffe pour pas avoir l'air blouk. C'est le blues du chanteur engagé, licencié. Quand les cerveaux sont vides, les oreilles dégagées. C'est le blues du chanteur qui a perdu son emploi. Parce qu'il peut pas chanter, y a de la joie. La belle époque, c'était ma folle jeunesse. Je faisais du protest rock en recopiant la presse. J'avais un manager incertain, Honeywell, qui faisait aussi son beurre avec des bombes à miel. Je donnais mauvaise conscience dans les Golden Sixties aux fils de l'abondance, pas droit dans leur chemise. Mais comme il y a plus de caviar dans la louche de Bob, conscience se fait rare, alors autant qu'elle soit bonne, c'est le blues du chanteur engagé, licencié. Quand les cerveaux sont vides, les oreilles dégagées. C'est le blues du chanteur qui a perdu son emploi, parce qu'il peut pas chanter, y a de la joie. De cause, mais c'est qu'on s'est blasé dans les lieux où ce qu'on cause. On a redécouvert le plaisir esthétique. Me parlez plus, mon cher, du sud-est asiatique. Me parlez plus des jaunes, me parlez plus des nègres. Je bois du côte du Rhône, gardez votre vinaigre. On plonge plus son nez que dans sa propre soupe. On jouit de ses doigts de pied agrandis sous la loupe. C'est le blues du chanteur engagé, licencié. Quand les cerveaux sont vides, les oreilles dégagées. C'est le blues du chanteur qui a perdu son emploi. Parce qu'il peut pas chanter, y a de la joie quand y a partout du dégât. C'était le blues d'un pauvre gars.